Je participais récemment à une conférence organisée par l'association ISACA Québec à l'Université Laval et cette rencontre avait comme thème l'inclusivité dans le monde numérique. Et une conférencière que j'ai beaucoup appréciée ce jour-là venait y parler de l'inclusion numérique des personnes âgées. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant comme sujet, un sujet qu'on aborde très peu souvent. Alors, je l'ai invitée à venir partager ses réflexions dans mon carnet pour que vous aussi, vous puissiez l'entendre. On retrouve donc à l'instant Frédéric Garnier qui enseigne en gérontologie à l'Université de Sherbrooke et qui était, jusqu'à tout récemment, membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement du ministère de la Santé du Québec. Bonjour, Frédéric Garnier.
Oui, bonjour.
Madame Garnier, avant d'aller plus loin, là, comment vous êtes arrivée à la gérontologie?
Alors, je suis arrivée à la gérontologie parce que j'étais extrêmement préoccupée du vieillissement en emploi et surtout de la façon dont les entreprises traitaient le vieillissement en emploi, considéraient le vieillissement, envisageaient que leurs employés un jour allaient devenir plus vieux qu'ils ne sont à l'âge où ils les ont recrutés. Et c'est ce qui m'a amenée en 2016, donc il y a déjà quand même un certain temps, à retourner aux études pour me former sur la question afin de ne pas parler de mon chapeau, de ne pas parler juste de mon savoir expérientiel, mais d'être formée en gérontologie. Et depuis ce moment-là, j'ai fait un grand chemin. J'ai continué ma carrière de conseiller en gestion, mais j'enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke en gérontologie et je fais partie du Comité national d'éthique sur le vieillissement. J'en ai fait partie depuis 2016, de façon.
À partir de quel âge on est un aîné dans votre tête?
Ah, ça, c'est une grande question. Parce que y a l'âge administratif, hein, à partir duquel on est un aîné. Souvent, c'est autour de 65 ans. Quoique ça varie, hein, pour la FADOC qui cherche des membres, bah, c'est 55 ans davantage. Et puis, il y a l'âge où l'on se sent basculer d'une certaine façon. Ça, c'est très personnel. Il y a l'âge où notre biologie nous indique que là, on est en vieillissement. Le vieillissement peut être accéléré. On peut être en maladie dégénérative très jeune et on peut se sentir comme quelqu'un de beaucoup plus âgé à un âge chronologique assez jeune. Donc, il n'y a pas d'âge à couper au couteau. On peut pas dire ça. Il y a des âges balises. 65 en est un, 75 en est un autre, qui sort de plus en plus maintenant. Et je dirais que le premier à avoir vraiment fait sortir ça a été Claude Castonguay, quand il a parlé du vieillissement et du quatrième âge, plus à partir de 75 ans. Ceci étant, il y a des gens de 90 ans qui sont extrêmement jeunes, et je connais des gens de 35 ans qui sont extrêmement vieux.
Ouais. Et c'est intéressant quand vient le temps de parler de l'âge dans le contexte de l'utilisation du numérique. Présentement, au Québec, quand je regarde le net tendance là, qui est produit par l'Académie de la transformation numérique, on parle des aînés, bon, on les met à partir de 65 ans et plus, mais c'est une nouvelle génération d'aînés parce que ces gens-là, ce sont les baby boomers, pour les nommer de cette façon-là, et dans leur carrière, ils ont vécu avec le numérique. Ils ont dû apprendre à changer et à devenir des citoyens numériques. Alors, ils rentrent dans la partie de leur vie où on les considère comme des aînés en étant des citoyens branchés, ce qui n'est pas le cas des aînés qui sont plus vieux qu'eux. Alors, on est vraiment en présence de différentes classes d'utilisateurs.
Oui. Différentes cohortes, exactement. On peut le dire même dans notre tendance, on le voit à 75 ans, il y a un clivage. 75 ans, ça correspond à un âge où, un, le numérique était moins là dans la vie professionnelle. Deux, les femmes étaient aussi un peu moins sur le marché du travail qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est important aussi à signaler. En termes d'utilisation, on n'a pas tous la même exposition au numérique dans la vie professionnelle. Donc, bien important. Maintenant, l'autre chose qui est à signaler par rapport aux aînés au numérique, c'est que, effectivement, tant qu'on est à l'emploi, on bénéficie en règle générale d'un minimum de formation. Hein, et souvent, l'entreprise exige qu'on soit quand même capable de manipuler un certain nombre d'objets numériques, que ça soit une caisse enregistreuse un peu plus sophistiquée ou un logiciel très sophistiqué. L'entreprise accompagne. La petite comme la grande a besoin d'employés qui sont aptes à. Quand on sort du marché du travail, et on sait qu'aujourd'hui, on sort du marché du travail autour de 64 ans à peu près. Mais dans les générations précédentes, on est sorti du marché du travail pas mal plus tôt. Mm-hmm. Là, on se trouve livré à nous-mêmes pour tout ce qui est formation, incluant la formation au sujet de l'utilisation du numérique. hein, avec tout ce qui va avec, la sécurité, comment je protège mon identité, comment j'évite la fraude, etc., etc. Et là, on est plus laissé à nous-mêmes. Donc, je me forme via YouTube, via des associations, via les petits-enfants ou les copains qui aident, parce que tout le monde n'a pas de petits-enfants aussi, on n'est pas sur le même mode. Donc voilà, c'est un vrai défi de suivre. Une fois qu'on a quitté le marché du travail, on est laissé à nous-mêmes pour se mettre à niveau. On va dire ça comme ça. On peut dire
Alors,
ça comme ça.
déjà, vous parlez du volet de formation, mais si je vous demandais, quand vous regardez la question des aînés du numérique, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels ils sont confrontés au
Alors,
quotidien?
premièrement, je dirais l'affordabilité en anglais du numérique. Ça, c'est une première chose. Le numérique aujourd'hui est coûteux. On n'a pas encore cette démarche de basse technologie ou en anglais, on dirait low tech. Ça n'existe pas, cette démarche-là. On le voit, il y a une obsolescence. On peut dire qu'elle est peut-être pas tout à fait programmée, mais il y a une obsolescence qui est là et qui coûte cher quand il s'agit de renouveler ses appareils. Hein, c'est un achat conséquent quand on regarde le revenu médian d'un aîné, hein, 21 000 pour les femmes, 31 000 pour les hommes. Bon, ça veut dire que chaque dépense compte. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, donc la question du financement, la question de la littératie. Pas oublier que les inégalités qui ont eu lieu dans notre vie précédant les années à la retraite, elles continuent à la retraite. On n'est pas à égalité par rapport à la technologie, par rapport à la littératie. On n'est pas tous pareils, pas tous aussi vite. Et les aînés représentent le plein spectre de la société, il ne faut pas l'oublier, hein? Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, dans la personne, il y a des incapacités qui arrivent. La vision, l'audition, peut-être moins avec le numérique, mais la vision. Les doigts arthrosés, j'en parlais pendant la conférence, hein. C'est pas facile quand on a un doigt qui est un peu croche, qui est un peu douloureux à plier, et qui est un peu épaissi et qu'il faut appuyer sur une touche, pas une touche, mais un espace assez réduit d'un écran portable. Bon, ça fait partie des choses qui sont difficiles. Ça, c'est si on parle de vraiment l'accessibilité de tout premier abord. Ensuite, il y a des choses qui sont plus difficiles. Je mentionnais, par exemple, tout ce qui est questions à répondre dans un temps limité. Par exemple, pour les questions de sécurité. On peut paniquer, on peut avoir certaines difficultés à rentrer dans les temps, se tromper, mal saisir un chiffre dans un code de sécurité qu'on reçoit par SMS. Par exemple, je regardais encore Desjardins a implanté là récemment, ou c'est pas Desjardins en fait, je pense que c'est plutôt nos cellulaires. Quand on est sur la double authentification, on reçoit un SMS. Maintenant, le SMS s'affiche au-dessus du clavier. Malheureusement pour les aînés, les chiffres dans lesquels il s'affiche sont extrêmement petits. Donc, c'est très utile d'avoir ces chiffres-là juste au-dessus de là où on doit les saisir. Malheureusement, ils sont trop petits pour les aînés. Donc, vous voyez, ça fait partie de ce qui est difficile pour les aînés. Ensuite, il y a tout ce qui change. On est confortable jusqu'à un certain point. Et les aînés l'ont bien dit, de ceux que j'ai interrogés, tout d'un coup, il y a une mise à jour. Et là, les icônes ont bougé, ils ont changé de forme, ils ne sont plus au même endroit. Il faut dérouler davantage pour trouver l'imprimante. Et là, chez un certain nombre de personnes qui sont moins expérimentées, eh ben, il y a un peu de panique, hein, un peu de panique, et la peur de ne pas savoir revenir en arrière si on fait une fausse manipulation, une fausse manœuvre, je veux dire.
J'ai l'impression que dans votre présentation, puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais vous entendre dans mon carnet, vous lancez un message, vous lancez un appel aux concepteurs, aux développeurs, aux décideurs qui créent ces applications-là pour qu'ils considèrent plus les personnes âgées et leurs besoins.
Oui, absolument, parce que le monde de la santé, le monde du travail social, du care, entre guillemets, se parlent beaucoup entre eux. Hein, ce sont des gens qui se parlent entre eux, qui échangent entre eux. Parfois, ils vont parler un peu aux municipalités aussi ou à certains groupes sociaux, mais parlent très rarement aux informaticiens. Or, ce sont les informaticiens qui vont concevoir, souvent sous direction d'un architecte d'affaires qui va penser à répondre à un besoin. Mais il faut parler aux informaticiens qui, il faut le dire, la plupart du temps, ne sont pas aussi âgés que les utilisateurs susceptibles d'utiliser leurs applications. ou leur système. Donc, je trouvais ça très important et c'est pour ça que j'ai finalement accepté l'invitation de venir parler. Je trouvais ça très important de passer ce message. Pensez qu'aujourd'hui, 25% de la population, ou quasiment, a 65 ans et plus, et que parmi ceux-là, et les gens de plus de 75 ans, il y a des gens qui ont besoin des technologies pour continuer à assumer leur autonomie comme la plupart d'entre nous le souhaitons, mais qui sont mal pris pour les utiliser. Donc, intégrons cela dès le début. On dit toujours que intégrer dès la conception est beaucoup moins coûteux que de venir par après modifier une application ou un système. Donc, je trouvais ça important de passer le message.
Pour poursuivre dans la même lignée de réflexion, selon vous, quel type de technologie ou d'interface aurait le plus de potentiel pour favoriser la participation sociale des aînés?
Alors, il y a énormément d'interfaces, hein. Le premier auquel on pense, je crois, c'est la voix. Hein? La voix, c'est sûr, et je crois que l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles vont faire d'énormes progrès à tout ce qui est commande vocale. Il y a toute la question de la sécurité, du paramétrage qui va autour de ça, qui est à considérer, qui n'est pas simple, mais il est bien sûr que simplifier l'interface homme-machine ou femme-machine va jouer un très grand rôle par ces commandes vocales possibles à partir du moment où les aînés seront entraînés à les utiliser. Parce que je peux vous le dire, je suis l'honorable fille d'un père de 100 ans dans quelques semaines, et qui est très techno. Hein, je parle de mon expérientiel ici, très techno. Hein, il a son iMac, il navigue sur WhatsApp, on fait du TeamViewer ensemble, mais la commande vocale, eh bien, il a beaucoup de mal à assimiler. Donc, il faudra un accompagnement des aînés pour ces commandes vocales, c'est bien sûr. Ensuite, il y a les interfaces simplifiées. Là aussi, je pense qu'il y a moyen. D'ailleurs, il y a déjà des interfaces. Je pense à une compagnie française qui offre déjà une interface qui n'est pas intrusive, mais qui permet d'adapter ce que l'on voit sur le web à une personne qui a de la dégénérescence maculaire, à une personne qui a la maladie de Parkinson et donc qui peut-être tremble beaucoup et qui a du mal à conserver un curseur, par exemple, au même endroit. Donc, il y a des améliorations qui se pointent, mais qui ne sont pas encore assez généralisées. La voie, pour moi, est une avenue intéressante, mais qui nécessitera de l'accompagnement.
Un des sujets qui est très, très, très populaire dans le monde du numérique, d'ailleurs, les auditeurs de mon carnet en entendent parler toutes les semaines, c'est évidemment l'intelligence artificielle. S'il y a une tranche d'âge d'utilisateurs qui a à vivre avec des biais et qui est concernée par la chose, c'est bien les aînés. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de risques de voir des biais face ou destinés aux aînés?
Absolument. D'ailleurs, je le nommais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'appelais ça AI2, donc IA2, pardon, intelligence artificielle au carré, hein, pour inclusion, intelligence artificielle inclusive de l'âge. Inclusive de l'âge, hein, age inclusive ou inclusive de l'âge. Bien sûr, parce qu'il y a très peu, il n'y a pas assez de données sur les aînés, parce que les données anciennes ont aggloméré les 65 ans et plus, alors que maintenant, on a tendance à les séquencer en plus de groupes, parce que l'âgisme est omniprésent dans la société. Donc, il est sûr qu'il y a des biais et qu'il va convenir de valider et d'entraîner les machines, peut-être corriger certains biais, des résultats qui pourraient sortir, de l'entraînement des machines avec les données actuelles.
En terminant, comment on peut améliorer les compétences numériques des personnes âgées?
Alors, je vais répondre à ça parce qu'il y a un sujet qui me tient extrêmement à cœur et que j'aimerais aborder en quelques secondes. Les proches aidants jouent un extrêmement grand rôle auprès des personnes aînées. Les personnes aînées vivent en général, parfois elles sont très isolées, on le regrette bien, mais en général, il y a souvent un réseau social autour d'elles, et pas toujours, je le dis bien encore, pas toujours. Donc, éduquer les proches aidants à aider la personne aînée dans le respect des droits de la personne aînée, c'est quelque chose de très important. Les proches aidants, quel que soit leur âge, peuvent évidemment aider la personne aînée à utiliser les technologies. Je crois que c'est très bien aussi, sans se substituer à ses droits. Très important, sans se substituer à ses droits. Hein. J'achète un bidule à mon parent pour avoir l'esprit tranquille, moi, comme proche aidant, parce que je suis au travail. Eh bien, il faut bien comprendre que la personne aînée a peut-être une vie affective, a peut-être une vie intime, qu'elle n'a pas forcément envie de révéler à ses enfants. Et il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup de pression de la part des enfants. Donc, il faut faire attention à ça. Par ailleurs, évidemment, il y a des groupes associatifs qui sont très actifs dans l'éducation des aînés. Faut-il encore qu'ils soient vraiment proches et accessibles aux aînés. Les aînés qui sont vraiment isolés et qui pourraient bénéficier davantage d'accompagnement ne vont pas forcément vers ces associations-là. Donc, le plus simple serait évidemment l'aide complètement intégrée aux applications, que ce soit sans disruption, quoi, vraiment. Le plus facile, la commande vocale peut-être. Aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Directement dans l'application. Donc, le système d'aide intelligent, finalement. L'aide à la tâche intelligente.
Ben, c'est sur cette suggestion que je trouve très intelligente que je vais vous remercier d'avoir accepté mon invitation de passer ici sur mon carnet pour partager cette prise de conscience que vous êtes en train de faire faire à bien des gens. Je rappelle que vous enseignez en gérontologie à l'Université de Sherbrooke et que, encore tout récemment, vous étiez membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement du ministère de la Santé du Québec. Frédéric Garnier, merci beaucoup.
Merci, ça a été un plaisir. Merci.